bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale, soyez les bienvenus, merci de nous rejoindre, on est ravis de vous retrouver avec Léa Cadeau-Bonelli.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour.
Albert Algou.
Bonjour.
Jérémy Crédville. Bonjour. Tanguy Vassure sera là tout à l'heure et notre invité est Jean-François Pierre.
Bonjour.
Bravo.
Miam.
Chef piège. Comment ça va, chef?
Ça va très bien.
Ça va très bien. Ici. Qui vous appelle chef d'ailleurs? J'imagine qu'à la maison, ça doit pas être le cas.
Mon fils m'a dit. Ça. Mon fils m'a dit hier. Bientôt, c'est moi le chef.
Ah ouais. Faut dire qu'il est très jeune quand même. Hein. Faut se méfier. Mais dans les cuisines, on vous appelle chef?
Oui.
C'est l'ordre normal, naturel des choses.
Je sais pas si c'est normal ou naturel. C'est une habitude. Et à savoir si les habitudes sont bonnes, je sais pas.
Et vous-même, vous avez grandi en appelant les autres chefs.
Absolument.
On dit qu'il y a un côté très militaire dans les cuisines, parce qu'il faut quand même de l'ordre, sinon ça part vite en vrille.
Ouais, ça s'appelle une brigade déjà.
Ouais, c'est vrai que c'est militaire. Ouais.
C'est assez militaire. Et après, c'est un métier où un petit geste peut tout foutre en l'air, c'est-à-dire trop de sel. Ce qui est quand même pas grand-chose, hein. On va pas tuer quelqu'un si on a mis trop de sel. Mais ça peut quand même tuer la totalité du travail.
Ça peut dénaturer le plat.
Ouais.
Et d'ailleurs, vous dites, à propos des tartes, puisque on est là non pas pour en recevoir, mais pour en parler, les tartes. les tartes pour tout déjà. D'entrée, le premier jour.
On est bien.
La fête comme ça.
Bonne semaine. Hein.
Les tartes de Jean-François Piège pour tous. Vous dites que les recettes sont super faciles, que chacun peut y amener son petit truc, mais quand même, il y a des règles à respecter.
Oui.
Il faut avoir un four,
faut avoir de la pâte. Je vais pas refaire. T'as de la pâte, t'as du sucre.
Non. Mais d'ailleurs, les pâtes, les nombreuses pâtes prennent pratiquement 80 pages de recettes.
Oui, parce que je pense que dans le mot pâtisserie, il y a le mot pâte. Et je pense que la pâtisserie.
C'est un bon début.
C'est pas mal.
Et
que la pâtisserie qui plaît à tout le monde, c'est la pâtisserie où il y a des pâtes. Les mousses, les crèmes, c'est ce qui peut-être nous éloigne de ce monde sucré. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait un livre sur les tartes parce que je me suis dit tiens. Moi, ce qui me régale, mon dessert préféré, c'est la tarte aux pommes. Ça, c'est le truc qui me...
Laquelle des trois ou des quatre? Parce qu'il y en a plein dans votre
livre. Il y en a trois.
Celle de la grand-mère?
Peut-être pas.
Non?
Celle aux pommes?
Peut-être pas.
Celle aux pommes?
La tarte aux pommes aux pommes, oui.
Celle sans les trognons? Il y en a une, c'est bien précisé, on enlève juste le trognon.
Mais c'est vrai, c'est laquelle, votre préférée?
Peut-être que la préférée, on n'y est pas...
Ah, Albert, il va falloir prêter au monsieur.
Ouais, c'est... Celle-là, c'est plus un souvenir d'école hôtelière.
Si vous dites celle-là à la radio, on ne sait pas de quoi vous parlez.
Alors, une tarte normande, c'est la tarte tatin.
La tatin.
Ça, c'est plus un.
Mais même tatin, il y en a deux aussi.
Ouais. Ça, c'est une tarte, vraiment ménagère, ce qu'on a appelé la tarte rustique. Mais moi, celle que je préfère, je crois que c'est pas celle-là.
La tarte aux pommes de votre enfance?
Non, c'est celle d'avant.
Qui s'appelle?
Celle-là.
Elle s'appelle tarte aux pommes.
Simplement.
Tout simplement.
C'est la tarte aux pommes.
Et en quoi est-elle différente des autres? Parce que les lamelles sont plus fines pour les pommes.
Et puis celle-ci, elle est recouverte deux fois de beurre et deux fois de sucre.
Ah,
voilà.
Vous avez quand même fait un bouquin zéro gras.
Oui, mais c'est justement.
Il était temps de vous rattraper.
C'est justement quand on a mangé la tarte. Je pense qu'il faut aller vers le zéro gras. Celle-là, elle est diabolique. Élodie, mon épouse, en a fait une pour Antoine et il a mangé ça au petit déjeuner.
Elle est en page 179.
D'accord, très bien. On va parler évidemment de ce livre, mais d'abord, savez-vous tout sur Jean-François Piège ou pas? À 5 ans, il ne rêvait pas de devenir chef, ni même cuisinier, mais quoi d'autre?
Jardinier.
Exactement.
J'ai regardé la réponse sur un papier tout à l'heure.
C'est vrai?
Non, c'est pas vrai, non.
Non, c'est pas vrai, je l'ai fait au hasard.
Non,
aussi. Moi, dire
la vérité.
Arrête.
Non, moi dire la vérité, mais c'est un nouveau challenge que vous
m'avez posé. Il a dit tellement spontanément que c'est vrai.
Non, mais attends.
Je le connais.
Et tu l'avais sur ton bureau ou pas? Et tu l'as vu sur le bureau de
qui?
Jean-Baptiste.
Non, mais par
qui
contre,
moi, je faisais ça en début de saison.
Je faisais ça en début de saison, mais je faisais
semblant d'hésiter. Et du coup, il y avait qui avait la bonne réponse avant moi.
C'est dégueulasse.
C'est dégueulasse.
Non, mais j'avais jamais la bonne réponse puisque vous répondiez avant moi.
En plus, tu triches et ça marche pas.
Revenons à votre rêve de jardinier. Ça, c'est un rêve aussi d'enfance. On parlait de votre grand-mère pour les tartes. C'était qui vous a appris à s'occuper d'un potager, si ça a été le cas?
J'avais un grand-père qui avait un jardin ouvrier. Et, bah, Moi, je crois que les châteaux de sable, je les ai pas faits à la mer, je les ai faits dans le jardin, en fait. Quand lui, jardinait, ramassait les fraises, je crois que de temps en temps, mon pied allait dans les semis et je me faisais un petit peu engueuler. Parce que voilà. Et c'était un jardin qui était assez ordonné. Et voilà, c'est des souvenirs incroyables. Mais c'est des souvenirs aussi gustatifs. C'est ce qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui. C'est d'avoir goûté tout ça toute ma vie, des fraises.
Et de suivre les saisons.
Ouais. Alors ça, je suis un ayatollah de...
Des saisons.
Des saisons et de la régionalité.
Est-ce que le comble pour un cuisinier, un chef, c'est d'avoir son propre jardin, son propre potager et de récolter ses propres fruits et légumes ?
Non, ça c'est pas le comble, c'est le rêve. Mais après, est-ce qu'on peut être au four et au moulin ? C'est ça la question.
Ah, ça c'est la question.
Ça c'est la question. Et c'est une question qu'on s'est posée en se disant, tiens, Alain Passard...
Vous l'avez
envisagé ? Ouais, Alain Passard le fait très bien parce qu'il a qu'un restaurant. Et lui, il n'a pas développé d'autres restaurants, il a développé des potagers. Donc, il nourrit une histoire et c'est la sienne et je trouve qu'il le fait très bien. Donc, l'histoire, elle ne sert pas forcément plusieurs fois.
Mais confier, par exemple, un jardin à quelqu'un en gestion, non loin de Paris, pour alimenter les différents restaurants que vous avez, ça c'est envisageable ?
Ouais. Et on fait comment dans un restaurant, au moment des tomates, quand on a un jardin, on le sait tous, au moment des tomates, quand ça donne. Hein.
Ouais.
On en fait quoi ? Tout le monde mange des tomates de A à Z. Il y a cet équilibre qu'il faut trouver qui est un peu compliqué.
Mais on peut en faire des coulis, on peut les conserver, on peut faire des sauces.
On peut en vendre, on peut en donner.
Oui, mais c'est plus de la cuisine ménagère, en fait. Et c'est vrai que la restauration, on vient chercher quelque chose au restaurant qu'on n'a pas à la maison.
Donc vous êtes obligé de faire des tomates, même en plein hiver ?
Moi, non.
Mais si, vous êtes obligé.
Mais non, non, non. Alors moi, ça, la saison.
C'est qui le chef ici, c'est
lui. merci, Daniel, merci.
Non, non,
parce qu'il m'écoute pas en plus.
Comment dire non à un client qui arrive dans un restaurant gastronomique comme le Grand Resto en disant
lettres.
Non, monsieur, vous n'avez.
Quoi ? Faut juste
alors,
dire.
Alors maintenant, c'est facile. C'était il y a 10 ans quand je suis arrivé au Crillon. Il y a 15 ans. Quand je suis arrivé au Crillon, il y a des gens qui mangeaient des salades de tomates dans le restaurant gastronomique. Et je leur ai dit non, je pourrais pas vous les faire. Ça a été des moments un peu de solitude. Hein.
Parce qu'on ne dit pas non à ce genre de clients déjà.
On ne dit pas non à ce genre de clients. C'est peut-être pour ça que la gastronomie est différente aujourd'hui. Mais entre il y a 15 ans et aujourd'hui, il y a quand même un grand pas qui a été fait. Les gens sont quand même assez attentifs à ça.
Est-ce qu'ils deviennent quoi ? Conscients de la planète ? Conscients de la...
Conscients de la planète, conscients qu'il faut bien manger.
Et de la saisonnalité. Donc.
Et de la saisonnalité.
D'accord.
C'est meilleur.
Et moins cher. Parce que quand on mange en pleine saison sur un produit qui est fait localement, eh ben c'est moins cher.
Et puis, ça n'a pas attaqué la planète avec un avion qui a porté le fruit de l'autre bout du monde. Jean-François a-t-il dégusté ? Je vais essayer de comprendre la question d'abord.
Ouais, ça, je peux dire qu'il a dégusté. Hein. Il a morflé même.
On va déguster.
Attends, t'as peut-être lu la réponse.
Ah là là. Non,
café Jean-François, machin, il a dégusté.
J'ai peut-être lu la réponse tout à l'heure.
Ah oui, donc il a dégusté du loup, il avait 13 ans dans un restaurant.
Et il pensait que c'était un loup.
C'est la première fois qu'il a été dans le restaurant du grand chef. Ah non, d'accord.
Ah non, Jérémy a raison.
Aussi, mais bon, c'était une autre anecdote.
Vous avez cru manger le loup du chaperon rouge, quoi.
Ouais, c'était. Bah oui. Pardon, je savais pas. C'était chez Jacques Pic à Valence. Ouais. Et dans ce restaurant-là, je vois 13 de loup au caviar. On va manger du loup ? Bah oui, j'étais innocent, hein, je savais pas que le loup c'était un poisson qui est dans la Méditerranée.
Et qui s'appelle
Bar en Bretagne.
Dans
l'Atlantique.
Ouais. Jean-François a fait son service militaire dans les cuisines de
l'Élysée.
Oui, c'était pas ça la question.
T'as lu la mauvaise réponse aussi ?
Oh là là. J'ai préparé moi.
Pourquoi quand le président de la République reçoit 9 convives, mettons 11 portions dans le plat ?
Est-ce que c'est le service à la française, chacun sert dans le plat ou alors c'est parce qu'il faut
chacun sert dans le plat.
Gérard Larcher qui est invité.
Deux places en plus, ça veut dire quoi ? Deux trucs en plus pour...
Non, écoute bien la question.
Ouais.
Quand le président de la République reçoit 9 convives.
Ok, donc il y en a un en plus, au cas où.
Sa femme ?
Un plat en plus.
Il y a 11 parts.
Oui, parce qu'ils sont 10 autour de la table.
Voilà. Donc quand le président reçoit 9 convives, donc en tout ils sont
10.
Il y a 11 parts dans le plat.
C'est la part du pauvre.
Pourquoi ?
La part du gilet jaune.
Invité surprise, il y a une tradition. C'est quoi ?
C'est une tradition.
Le corps du roi, quoi. Enfin, je sais pas, un truc, la monarchie, je sais pas.
Vous étiez pas loin tout à l'heure. Tout à l'heure, vous étiez pas loin.
Pour donner un citoyen, pour donner un loup.
Sa femme ?
Le fantôme de Mitterrand.
Non, c'est un rapport avec la tradition française. Ça rapport
et l'élégance. Une forme et l'élégance.
Ah, pour pas avoir de nombreux pères à table, non c'est pas ça.
Okay, c'est pour qu'il en reste dans l'assiette.
Exactement.
Ah oui.
Exactement.
Dans le plat.
Okay. C'est pour ne pas être le dernier à prendre la dernière part. Ouais,
servir à la française, c'est tendre le plat au convive. Et c'est le convive qui se sert. Et donc le dernier, faut pas qu'il ait terminé le plat. Parce qu'on termine pas le plat.
Ok.
C'est quoi ça, on termine un peu le plat? Moi, c'était l'inverse.
C'est l'apologie du cachet.
Dit, tu finis.
Bah oui. Ouais, mais déjà, c'est la différence. Aujourd'hui, on pousse pas les gens à manger, au contraire.
Non, mais il fallait pas gâcher, surtout dans mon enfance. Il fallait finir le plat.
Est-ce que c'est une bonne chose, ça, d'ailleurs?
De quoi? De pas gâcher?
Ouais. De pousser les gens à manger. C'est pas une bonne chose.
Non, pas de les pousser à manger. Mais s'il en reste, déjà, il fallait pas en faire trop.
Voilà.
Mais s'il en reste. Là, il reste toujours une part. Alors, à qui elle va cette part?
Oh, c'est jamais gâché. C'est jamais gâché. Il y a des bouches à côté qui attendent.
Lors du service militaire, on va rester à l'Élysée, Jean-François Piège a fait une faute dans un menu. Quelle faute a-t-il commise?
D'orthographe. Faute d'orthographe.
Exactement.
Corrigé par le président.
Alors, faut raconter ça.
À l'Élysée, avant... Il y avait deux cuisines, la cuisine privée du président de la République et la cuisine officielle qui faisait les grands dîners d'État. Moi, j'ai eu la chance de faire les deux. Et un jour, les cuisiniers privés étaient très indépendants avant, ce qui n'est plus du tout le cas. Maintenant, c'est géré par Guillaume Gomez. Il n'y avait pas de déjeuner prévu. Le cuisinier était parti en charge. Moi, j'étais l'appelé du contingent qui était là. Il fallait faire un menu rapide. Et normalement, on donne le menu, le secrétariat le tape et autres. Mais sauf que ça devait être 11h30, il fallait faire le menu pour midi. Donc, je prends un papier, je note et je mets un dé artichaut.
Artichaut avec un D à la fin.
Ouais. Alors qu'il en faut deux.
Artichaut.
Alors qu'il en faut deux.
Et donc,
c'est meilleur.
J'ai un stylo plume qui a barré et qui avait mis un T dessus.
Et alors, qui était le président à ce moment-là?
François Mitterrand.
Mitterrand avec un D ou avec un T? Quelle est la particularité du grand restaurant, le restaurant gastronomique étoilé de Jean-François Piège? Quelle est cette particularité? On va dire une particularité architecturale.
Cuisine ouverte.
Alors,
on voit la cuisine.
On peut manger à la.
C'est plus fort que ça encore.
C'est vrai.
C'est plus fort que ça.
Si, c'est plus fort que.
Les clients cuisinent.
C'est plus fort que de la voir. C'est plus fort que de voir la cuisine.
Tu la sens.
Tu l'as fait. Tu l'as fait.
On peut dîner dans la cuisine.
Tu l'entends.
Non.
Tout au micro-ondes.
Non.
Je sais pas. Tu peux cuisiner.
On entre par la cuisine. On entre par la cuisine.
On rentre par la cuisine. Ça, c'est dingue.
Vous n'avez pas pu faire une porte d'entrée? Jean-François.
C'est la première chose que voient les clients en arrivant, c'est la cuisine.
C'est génial.
Est-ce que ça oblige aussi tout votre personnel?
Elle propre.
Non, mais j'allais dire bonjour ou bonsoir.
D'ailleurs, c'est la première chose. Et l'une des raisons, le premier projet, la cuisine était au fond, la salle était devant, puis je me suis dit pourquoi on va se cacher? Au contraire, je voulais faire la maison d'un cuisinier, donc on rentre par la cuisine. Et je me suis dit que toute ma vie, j'avais passé ma vie dans des cuisines fermées et qu'aujourd'hui...
Parfois au sous-sol.
Et qu'aujourd'hui, c'était plus agréable. Et je pense que la conscience des collaborateurs qui voient les clients qui rentrent est plus forte quand ils vont leur faire à manger que s'ils ne savent pas à qui ils vont faire à manger.
Mmh. Est-ce qu'il y a des dialogues qui s'installent entre certains clients et...
Ceux qui viennent, ouais.
Des histoires d'amour? Le maître saucier.
Si c'est toi, arrête.
Non, je pense que s'il y avait un autre terme plus judicieux.
Est-ce qu'il y a des dialogues qui s'installent? Est-ce que comment
il y en a qui commencent à taper? Il y a des gens qui viennent nous voir. Absolument.
Ça prend des plombs. Mais attendez, je suis en train de.
Et alors la question, je ne sais pas qui a dit tout à l'heure, manger en cuisine. Est-ce que c'est possible ou pas pour vos clients de manger?
On a une toute petite table qui est pas forcément là, mais elle est vraiment toute petite. C'est assez serré. Mais j'avais le seul endroit.
Ce qu'on appelle la table du chef.
La table du chef. Et de temps en temps, elle est prise. Mais on la vend pas. Il y a que ceux qui demandent. Parce que je pense qu'il faut que ce soit une vraie volonté de vivre. Faut pas que nous, on oblige.
Oui.
Il y a des gens qui sont pas réceptifs à ça. Donc, elle est là. On la vend jamais. Les gens qui viennent la voient. Et parfois, quand ils reviennent, ils nous demandent, est-ce qu'on peut avoir la table en cuisine?
Donc pour voir
qui paye pas.
Si.
Si.
Je suis un commerçant.
Il y a une chose que personne n'a le droit de toucher chez Jean-François Piège.
La caisse.
Des livres de cuisine.
Exactement. Waouh, direct. Les livres de cuisine. Vous en avez beaucoup?
Ouais, quelques-uns.
Ouais.
Quelques-uns.
Non, mais quelques-uns, c'est un euphémisme ou c'est
Non, c'est pas un euphémisme, dix mille.
10 000, c'est un euphémisme.
10 000.
Après, les autres, on peut les toucher, mais c'est surtout les anciens. Il y a des vieux livres comme L'art d'amollir les os de Denis Papin, le créateur de la.
L'art d'amollir les os.
Ouais. Et en fait, il était assez novateur parce que c'est le bouillon cube. En fait, Denis Papin, le créateur de la machine à vapeur, fait un livre en 1698 qui s'appelle L'art d'amollir les os. Et donc, en fait, il explique comment on fait des poudres de ce qu'on fait aujourd'hui dans la cuisine. On fait des poudres parfois de céleri, de persil pour assaisonner. Il y a quelques siècles, il y avait pensé. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que dans la cuisine, on peut pas déposer les recettes parce qu'on peut pas prouver l'antériorité.
Rien ne peut s'inventer.
Rien ne peut s'inventer. Ouais.
Ces livres, il y a un côté collectionneur de votre part ou de temps en temps vous allez chercher une inspiration?
Je suis pas sûr qu'on puisse. L'histoire, elle resserre pas deux fois. En revanche, c'est vrai que quand on fait une recette classique, par exemple à la poule au pot, moi la poule au pot, cette cuisine-là, j'ai rien inventé. Donc effectivement, quand on a repris la poule au pot il y a un an et demi, j'ai essayé de regarder ce qui se faisait. Puis après, moi, j'ai apporté mon grain de sel. Le Grand Restaurant, c'est une cuisine d'auteur. Le Clover Grill, c'est une cuisine de produits. Et le Green, c'est une cuisine végétale. Là-dessus, les livres ont peu d'importance. Sur la poule au pot, il a fallu travailler, chercher. Mais c'est ce que j'ai aimé faire aussi.
Est-ce qu'on vérifie si ça n'a pas déjà été fait, ce que l'on invente, ce que l'on crée, quand on croit avoir une idée géniale en mélangeant de parfums, de textures, et on va quand même feuilleter en se disant est-ce que...
Oui, il faut faire attention. Puis parfois, aujourd'hui, on a un outil incroyable, en plus que du livre.
Internet ?
C'est Instagram. Instagram, c'est incroyable. Pour la cuisine, c'est incroyable.
C'est-à-dire les photos de plats ?
Oui, on voit des choses qui se font aujourd'hui. En plus des cuisiniers, les consommateurs prennent en photo ce qu'ils mangent. Ouais. Donc, je pense que la première famille de photos...
Ça, c'est un truc que moi... Pardon, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Comment vous l'expliquez ?
Heureusement qu'ils le prennent avant.
Non, je pense que c'est pour envie de partager un moment passé.
D'accord, mais l'esthétique...
C'est beau souvent quand même. La façon
pour nous, c'est intéressant parce qu'on a un panel de recherche qui est assez incroyable.
Ouais. D'accord, mais on n'a que l'esthétique, on n'a pas le goût.
Ah oui, effectivement.
On n'a pas
la texture.
On n'a pas le goût sur la photo.
Non, mais tout à l'heure, j'évoquais quand vous mariez deux goûts en particulier, est-ce que vous allez voir les recettes de cuisine, vous me dites, mais maintenant il y a Instagram. Donc,
Ouais, mais après, je vais vous dire, le blanc manger, c'est un dessert que je fais depuis 20 ans. Là, on a trouvé...
C'est votre dessert signature. Oui.
Voilà, on a trouvé un fournisseur qui fait des œufs garantis non OGM, c'est-à-dire que c'est lui qui fait pousser ses céréales, qui élève ses poules. Il y a quatre ingrédients dans le blanc manger, des œufs, du sucre, de la vanille et du lait. J'ai pas changé la recette, j'ai rien changé. J'ai juste changé l'origine des œufs. La texture est différente, le goût est différent. Donc la cuisine, c'est quelque chose d'assez incroyable.
Est-ce que, on sent la différence du goût de l'œuf, ou du moins du blanc manger, une fois que l'œuf est cuisiné, en fonction de quel œuf on a pris?
Oui.
Vraiment?
Vraiment. Là, c'est quelqu'un qui fait des œufs incroyables, et la couleur, elle est jaune. La crème anglaise, elle est plus liquide, elle est épaisse. Mmh. C'est incroyable.
C'est fou.
Et j'ai pas voulu le modifier la recette parce que je trouvais que c'était beau, que la nature et cette incidence. Et ça m'a rappelé quand on parle ce goût du souvenir, ça m'a rappelé quelque chose que j'ai vécu il y a une quarantaine d'années. C'était ces œufs-là avec lesquels j'étais élevé. Et ça faisait longtemps que j'avais pas mangé ça. J'étais extrêmement fier.
Et la vanille, il semblerait qu'il y ait un marché.
C'est un truc de dingue, la vanille.
Et que le prix de la vanille est en train d'exploser dans le monde entier.
Alors, c'est le mauvais côté. Et le bon côté, comme ça devient un produit rare et cher, il y a beaucoup de pays qui se mettent à en faire, donc des goûts différents. Aujourd'hui, il y a de la vanille au Mexique, auquel on n'avait pas accès, qui a un goût incroyable aujourd'hui. Il y en a partout sur la planète. Il y en a en Inde. Avant, on avait Madagascar, Tahiti, et puis voilà. Ça se résumait à deux provenances. Aujourd'hui, il y a 15 provenances de vanille avec des goûts différents, des subtilités différentes. Nous, on fait notre blend de vanille aujourd'hui. On achète 5-6 et puis on en mélange et puis ça va durer
pendant... Donc là, ça ne peut venir que de loin sur notre planète et ça ne pousse pas en région parisienne.
Effectivement.
Donc, quelle est la limite ? Quelle est la limite de la consommation de la vanille pour, par rapport à ce que vous dites tout à l'heure ?
La limite, c'est que c'est un ingrédient qui ne pousse pas chez nous et qui fait partie de notre tradition et que j'utilise. En revanche, si des choses qui sont autour de nous on va les chercher ailleurs, c'est là où on est bête. C'est-à-dire les fraises, tous les fruits, les légumes, on les fait venir autour de chez nous.
Et les œufs, quand on parle de saveur, quand on est consommateur lambda, on achète ses œufs dans les magasins, même bio, comment on fait pour avoir nous aussi ce goût d'antan, de retrouver ça ?
Il n'y a pas beaucoup de fournisseurs. Si on est à Paris, sans publicité, terroir d'avenir. Ils ont les œufs que j'achète. Ouais. Ils ont trois magasins, mais je pense qu'il faut. J'ai envie de les aider parce que c'est des gens qui cherchent et qui trouvent. Ils cherchent des producteurs qui font des œufs incroyables et qui trouvent. Et après, chacun doit avoir la conscience. Par exemple, ils ont trouvé en Bretagne quelqu'un qui fait de la crème. J'arrivais pas à avoir ma quantité de crème. Donc, je savais pourquoi.
On sent qu'il va bouder, là, quand il dit ça. On sent qu'il n'est pas de bonne humeur.
Mais non,
je n'arrive pas à avoir ma quantité de crème.
Cette crème qui était dingue. La sauce de la blanquette à la poule au pot, c'est la crème. Si j'ai pas cette crème-là, j'ai pas ça. Mais pour avoir de la crème, il y a le lait. Et donc, il fallait acheter le fromage blanc. Donc, pour que le paysan s'y retrouve, j'ai acheté la matière grasse du lait et le lait. Et comme ça, il me vend la crème. Il faut avoir cette conscience aussi de se dire, on veut pas que ce qui nous intéresse, on fait tout. Et tout le monde est content.
Oui, j'allais dire, et comme par hasard, en plus, ça donne un résultat meilleur que ce que vous aviez avant.
Exactement.
Ouais, en plus.
L'élément, c'est fromage blanc, moi. C'est dingue. Ah, j'imagine le truc. Est
alors, bon. Parlons des tartes de Jean-François Piège, ouais. Pour tous. Vous déclinez cette notion de pour tous. Hein, c'est comme une collection pour que ce soit abordable.
On en est au troisième. Ouais.
Est-ce que la pâtisserie et les tartes sont, allez, on va dire, les recettes les plus faciles à appliquer sans être un grand chef. Parce que c'est mathématique,
c'est
parce que c'est cartésien,
ouais.
il faut
méthodique.
Juste respecter les doses prescrites.
Alors, les tartes, pas que, c'est pour ça que j'ai fait dans les tartes, j'ai dit les petites règles pour réussir les tartes. Parce qu'en fait, je pense à un moment donné qu'une tarte plus cuite est meilleure qu'une tarte moins cuite.
Non, ouais. Non, mais je trouve ça, moi je comprends pas. Il y a même une chaîne qui commercialise des espèces de cookies qui sont pas assez cuits. Je comprends même pas l'idée. Non, c'est vrai. C'est le truc, c'est très tendance, c'est à la mode et c'est dégueulasse, quoi. C'est pas cuit.
Oui, bah, et puis en plus nutritionnellement c'est pas terrible parce que manger du gluten pas cuit c'est pas le truc
le mieux pour la digestion.
Le mieux pour la digestion.
Hein. Vous dites tant qu'à, il vaut mieux que ce soit plus cuit. Vous précisez d'ailleurs que en fonction de la température ambiante, du taux d'humidité, de la farine choisie, les conseils de cuisson que vous donnez ne sont pas toujours les mêmes.
Non.
Finalement, il faut regarder.
C'est pour ça qu'on a mis quelques photos et en expliquant à la fin ce qu'était une tarte cuite à blanc et une tarte qui était totalement cuite, parce qu'en fait, le temps... un exemple, je ne vais pas parler des tartes. Un œuf dur, ça peut prendre de 8 minutes 30 à 10 minutes. Pourquoi ?
Ça dépend de l'altitude où on est.
D'une part, et puis...
Environnement, la température ambiante.
S'il sort du frigo, il est à 5 degrés. S'il est dehors, il est à la température ambiante.
Alors, moi, je savais que si
on met les eaux frais,
pour faire cuire son œuf, si on est au niveau de la mer, c'est une certaine durée. Si on est à la montagne, c'est une autre durée.
Exactement.
Je savais ça.
Mais il y a la deuxième chose, si l'œuf est froid ou pas froid. Quand on cuit une viande, nous, on préconise de la sortir longtemps du frigo pour pas qu'il y ait de choc thermique et que la température rentre tout doucement dedans. Mais ça veut dire que ça va prendre plus de temps s'il sort du frigo que si on l'a sorti avant. Bah, les tartes, c'est pareil.
On a l'impression que c'est du bon sens.
Tout oui, ça, c'est, mais c'est... Alors, franchement, la cuisine et la pâtisserie, c'est que du bon sens.
Ouais, enfin, bon, moi, j'en ai quand même vautré pas mal, hein, des histoires de tartes, parce qu'on va pas se mentir. Parce que, par exemple, la tarte à l'oignon, moi, c'est un truc qui m'intrigue. Parce que à réussir à avoir à la fin une pâte qui est pas complètement humide... qui tiennent suffisamment bien et ne pas avoir des sortes de petits filaments blancs en surface de la tarte à l'oignon, les petites peaux de l'oignon. Enfin, moi, j'en ai vautré, mais des quantités
mais
astronomiques.
T'as pensé à l'épauler?
Oui, je les ai fait. Non, mais c'est vrai.
Et pas les mettre entiers, les émincer aussi.
Non, mais ça, je l'ai fait, prenez-moi pour une idiote. Mais,
j'ai pris ça pour une boîte.
Et le fond de tarte est complètement humide et ça se découpe mal et
non,
c'est une cata.
Elle a raison.
Ah, mais c'est pour
la
ça
tarte
que
à la courgette d'ouverture aussi, c'est ça. Hein.
C'est pour ça que sur toutes les tartes, je précuis les pâtes avant. Parce que je pense que toutes les tartes, on peut précuire les tartes avant, c'est tout. Il faut précuire. Vous faites une tarte à la maison, précuire, ça veut dire mettre la pâte au fond d'un moule, la piquer ou pas, suivant s'il y a du liquide, mettre une feuille de papier, des lentilles ou des noyaux ou des petits cailloux, et on la cuit au four. Parce que à ce moment-là.
Oui, là, il y a des cailloux très branchés, très modernes.
Glitter,
Des haricots blancs, ça suffit, quoi.
Ouais, ouais, bien sûr.
C'est juste pour éviter que la pâte
Nous, comme on le fait souvent, c'est des choses qu'on peut repasser. Les haricots blancs, à un moment donné, ça brûle. C'est pour une question d'économie.
Là.
Mais ça, voilà.
Moi, je mets des bijoux.
Non, mais là où je suis d'accord, d'abord, elle donne toute envie. Moi, c'est la bayadère là, que l'on a faite. Elle est dingue. Elle est dingue. Alors, bayadère, ça veut dire rayé. Hein,
rayé, ouais, c'est ça. Parce que souvent, ce plat-là, on l'appelle le tian. Quand on est en Provence, mais en Provence, le tien, c'est pas ce qu'il y a dans le plat, c'est le nom du plat. C'est le nom du plat.
C'est ça. Donc, parce, tout simplement, oignon, tapenade, courgette et aubergine, évidemment, qui donne les meilleures tartes. On peut faire des tartes à tout ?
Je pense, ouais.
Des tartes à tout ?
La tarte à tout.
La tarte à tout.
Mais il y en a une que j'ai pas mis, j'ai fait une. Parce qu'il n'y avait pas assez de place, j'ai fait une tarte steak à cheval. J'ai pris, une pâte. Je l'ai pré-cuite, j'ai mis un steak haché dessus, j'ai cassé un œuf, j'ai mis un petit peu de fromage et je l'ai passé sous le grill. Franchement, c'était dingue.
C'était drôle, mais c'était dingue. Sérieux ?
Et alors, comment choisir la pâte en fonction de l'ingrédient qui est au-dessus ? Parce que là, des pâtes, il y en a, les pâtes brisées, les pâtes à l'huile, les pâtes sucrées, les pâtes aux amandes, la pâte brisée, j'ai déjà dit, pardon.
Pâte à modeler.
La pâte à brioche, feuillage, enfin, il y en a.
Elles sont toutes valables petite,
c'est une question de goût, vraiment.
C'est une question de goût, petite histoire. Je me balade, enfin, je me balade pas. Je vais chez un vigneron qui s'appelle Pierre Auvernois et il me fait goûter une tarte d'un boulanger qui s'appelle la tarte au comté. Mmh. Et je me suis inspiré de ce que j'ai fait, de ce que j'ai mangé pour la refaire. Et j'ai fait cette pâte-là. Je me suis dit, tiens, pourquoi on ferait pas la tarte à l'oseille? Et j'ai décliné, en fait. C'était pas forcément dans ma culture, c'était pas dans mon savoir d'avoir vécu quelque chose dans cet endroit-là. Et je pense que si on l'a fait qu'une pâte brisée, c'est aussi bon. Ouais, c'est ça. Cette pâte, cette tarte, elle est dingue. Pâte à brioche, c'est du comté. On était dans le Jura. Des œufs, de la crème, un trait de vin jaune.
Crème double.
Double.
Ouais. Ah, oui. Ah ben, on n'est pas dans le.
On est d'accord.
Hein. On est d'accord. Mais
il a pris tous les œufs.
La tarte figue et parmesan.
Ah ouais.
Ouais. Ça, c'est dingue.
Truc de malade, ça aussi. Ouais. Truc de malade. Sauf que là, il faut attendre le mois d'août hein, pour avoir les,
et oui.
les figues.
Et oui.
Faut savoir être
patient. Il faut être patient. Alors, il y a les premières figues qui vont arriver au mois de juillet, ce qu'on appelle les figues fleurs. Mais celles-ci ne sont pas aussi bonnes que les
autres. Jusqu'en septembre, hein, les figues.
Ouais, même octobre.
Ouais,
hein, même octobre.
Il fallait attendre au mois d'août, ça ne veut pas dire que c'était
que. Et puis cette année, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'avec la nature, on est assez humble. Parce que cette année, quand on voit le froid qu'il fait, on va voir si tout ça va pas se décaler.
Si les produits vont pas se décaler un tout petit peu. Et, d'accord. Ces recettes de tarte, j'ai pas compté combien il y en a, mais en tout cas, ce qui est malin dans ce livre de recettes, c'est que il y a la partie salée, la partie sucrée, que vous précisez d'ailleurs à quel moment de l'année aussi on peut le consommer. S'il y en a qui sont consommables toute l'année, ou si c'est à des moments plus rares. La pizza soufflée aussi, qui était l'une de vos spécialités. Alors je sais pas si c'est vous qui l'avez inventé.
Oui.
Et vous dévoilez le secret comme ça. Allez-y, faites-la.
Ouais, c'est tellement dur à faire. Autant toutes les tartes sont assez faciles.
Ah, c'est vrai.
Franchement, les tartes sont assez faciles, mais celle-là, c'est.
C'est plus dur.
C'est plus dur.
Et en ingrédients, c'est somme toute assez. Enfin,
j'adore cette recette. Je cherchais à faire une tarte aux fraises. Ouais. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour m'approprier cette recette de tarte aux fraises?
C'est la fraise cuite ou pas?
Sablée.
Ah non, parce qu'il y a la tarte aux fraises cuite.
Ouais.
C'est un peu de la confiture, non, la tarte aux fraises
cuite.
Oui,
et c'est un goût très différent. Et je me suis dit, j'aime bien la tarte aux fraises chantilly. J'ai fait un sablé breton assez épais, une vraie chantilly, des fraises posées dessus, un petit peu de menthe et quelques dragées concassées pour donner un peu de texture. C'est pas mal.
Non mais en plus il y a plein les ingrédients sont assez simples parce que souvent les livres de cuisine j'en achète quand même pas mal et quand je vois la liste de des choses que j'ignore exactement où je peux les trouver, le seul truc que j'ai pas compris c'est la poudre à crème.
La poudre à crème c'est la poudre à flan. Ça se trouve c'est la même chose.
Ah d'accord.
C'est quand on fait pour un flan, pour une crème pâtissière, la poudre à crème c'est un amidon qui est plus lisse que la farine, c'est meilleur.
C'est chez Hachette Cuisine, des recettes super faciles pour faire aussi bien que le chef Jean-François Piège, qui est notre invité. Jean-Pierre Coff.
Oui.
Ça va être un succès, ce.
Très cher Nagui, comme vous le savez, j'ai été initié à la cuisine, à l'art culinaire, par mon cousin, le regretté Jean-Pierre. Et question tarte, je croyais absolument tout savoir. Eh bien, je me trompais. Pardonnez-moi ce jeu de mots un peu fastoche, mais c'est la rentrée. J'ai été piégé par piège. Mais oui, nom de Dieu, votre livre, cher Jean-François, je l'ai littéralement dévoré, l'eau à la bouche, les papillons en émoi, toutes ces saveurs promises, ces régals à venir. Alors, je peux pas revenir sur toutes vos recettes aussi simples que succulentes et si jolies. Regardez votre tarte aux fleurs, si elle est pas belle, hein, elle est jolie. La bayadère évoquée tout à l'heure. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis tombé en amour pour votre tarte au mur. J'ai été pâté par toutes vos pâtes, soufflé par votre pizza soufflée, complètement renversé par votre tatin. Tatin renversé, vous avez saisi, Nagui ?
Oui.
Voilà. Alors, ceci dit, j'ai pas compris vos réticences, cher Nagui, quand juste avant l'émission, JNB, notre rédac-chef, qui est plutôt tarte au coulommier, vous a annoncé l'arrivée de Jean-François Piège. Jean-François qui ? Piège, oh mon bon maître, l'auteur de Tarte pour tous. Eh bien, en attendant, prends celle-là de tarte, elle est pour toi. Ah, et tant de violence pour des tartes, mais pourquoi? Pourquoi? Laisse tomber, je lui dirai que toutes ces tartes sont super, que ce sont des tartes au poil.
Ça va pas,
voilà, cher Jean-François Piège, voilà comment se prépare la bande originale. Dans les calembours scabreux, les calembours les plus douteux, le dégoût des plats simples et populaires et le mépris des grands cuisiniers. Alors, pour ma part, j'aurais volontiers ajouté à votre livre une recette de mon cousin Jean-Pierre, la tourte aux joues de phoque. Alors vous mettez une belle tête de phoque fraîchement coupée à déglairer dans un bidet ou dans un seau rempli de vinaigre. Vous dorez le rond de pâte, vous savez faire avec la glaire. Enfournez 6 à 8 minutes, sortez du four, disposez les joues crues découpées en fines lamelles. Allez-y les enfants, allez-y, bonne émission.
Merci, à bientôt.
La bande originale, midi, sur sur France Inter.
Et quelle est la dose de liberté que vous laissez à celui qui feuillette ce livre et qui fait ses propres tartes?
Total.
Non mais total. Il y a le risque de. Vous avez dit tout à l'heure, c'est mécanique, c'est mathématique,
ouais,
c'est pragmatique. Chaque faut pas jouer.
C'est
avec
plus
les...
facile. C'est plus facile d'expliquer une recette de pâtisserie parce qu'on a un déroulé. Après, par exemple, la brioche. Qui est une pâte assez délicate à faire, il suffit qu'on la fasse en hiver ou en été pour que l'absorption de la farine ne soit pas la même. Donc, sur la recette de la pâte. Mais une fois qu'on a fait la pâte, franchement, on met ce qu'on veut dans la tarte. Du moment où la pâte est bien cuite, que les ingrédients soient de saison et qu'on y mette un petit peu de soie, c'est super bon.
Avec l'idéal étant de cuire à part...
De pré-cuire.
D'accord.
De pré-cuire. Une fois qu'on a
pour
donné...
pas se retrouver avec une pâte trop humide, voilà. En l'occurrence,
exactement.
Imbibé par le légume.
Ouais. Faut pré-cuire. Franchement, s'il y a une règle à garder, c'est.
C'est un peu comme la ratatouille, quoi. Tu dois faire cuire les éléments les uns après les autres. Sinon après, ça baigne dans l'eau des tomates et ça le fait plus.
Exactement.
Et à la main ou plutôt, je vois, il y a le robot aussi qui est utilisé parce que
mais
est-ce que ça change ça le résultat.
Le côté pratique, c'est plus facile avec un robot. Ouais. Après, certaines pâtes, c'est pas nécessaire. C'est pour ça que je l'ai montré aussi dans un saladier. Hein. Vous avez vu le saladier, il est rose en plus.
Assumé. Et puis, alors surtout, vous dites qu'il faut toujours, faire plus de pâtes que prévu.
Ouais.
Et puis, ce qui sort du moule et ce qu'on découpe avec le couteau, on le garde.
On le met au congélateur et la fois suivante, au lieu de refaire la pâte, on la sort 2 heures avant, elle décongèle tranquillement. Et on refait une tarte et on a gagné.
Ah, vous sortez du congelé, ouais, bah d'accord. Okay. Ah, mais j'y attendais pas, moi. Hein.
Faut pas gâcher.
Faut pas gâcher.
Voici Jérémy Crédville.
Ah, salut à vous tous autour de cette table qui m'avait beaucoup manqué. Et salut Nagui. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mai, donc dans 2 jours, nous serons...
Bourré,
oui, bravo monsieur du public qui a trouvé. Parce que oui, dans 2 jours, c'est le 8 mai, c'est férié. Et apparemment, c'est tous les jours le 8 mai pour ce cher monsieur du public, puisqu'il est là du lundi au vendredi, c'est-à-dire plus souvent que moi. Donc je disais 8 mai férié, et j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier celui sans qui ce repos annuel n'existerait pas. Merci Adolphe. Parce que, on voit toujours les mauvais côtés, hein, la guerre, les morts, toutes ces photos de 1945 où grand-mère a les cheveux très courts. Mais sans Hitler, pas de conflit mondial. Sans conflit, pas d'armistice. Sans armistice, pas de pastis. Mmh. Eh oui, il n'y aurait pas de barbecue au soleil un mercredi en pleine semaine. Bah oui,
il
n'y
aura pas de soleil, t'inquiète pas.
Ah non, là, cette semaine, c'est comme un Français à la finale de Roland-Garros. Voilà, il n'y en a pas. Donc tout aurait été tellement plus simple si justement en 1939, les futurs belligérants, au lieu de jouer à qui est la plus grosse, et je parle d'armée, eh bien s'étaient réunis pour un repas convivial en plein air. J'aurais réglé le problème en 5 minutes. Imaginez, nous sommes le 10 août 1939 dans une réalité parallèle. Dans cette réalité, Leïla est sobre, Daniel est propre, Nagui fait 1m92. Et dans le paisible jardin du nid d'aigle, c'est dégueulasse surtout pour Nagui.
C'est juste impossible.
Voilà. Donc imaginez, Hitler a invité Hirohito, De Gaulle, Chiang Kai-shek et Churchill. Pour une meilleure compréhension radiophonique d'ailleurs, et parce que je ne veux risquer aucune poursuite, le japonais Hirohito aura un accent québécois et le chinois Kai-shek un accent belge.
C'est bien.
Bon, les gars, écoutez-moi. Moi, Charles de Gaulle.
Tu as dit un accent quoi?
c'est Charles. Moi, Charles de Gaulle, président du Comité français de libération nationale, futur chef du gouvernement provisoire de la République française, prochain instigateur de la 5e République. Oh, et oh, ça va, Charles? On n'est pas dans Game of Thrones. Tu t'es pris pour Daenerys ou quoi? La question, c'est simple. Brochette ou merguez? Winston! Je ne te permets pas de me parler sur ce ton. Pose ce cognac, tu es encore bourré. Excusez-moi, si je peux me permettre, là. Qu'est-ce qu'il veut, le chinois? Mais voyons donc. Je suis pas chinois, je suis japonais. C'est pareil, mais non. L'un est votre ennemi, l'autre votre allié. Mais qui est qui? Bonjour, messieurs. Attendez, mais qui c'est, celle-là? Je suis Marie-Ange Nardi. Vous avez dit qui est qui, alors j'apparais. Putain, c'est le bordel, Marie-Ange, dégage. Il y a Pépita qui t'appelle. Oh, on me laisse jamais très longtemps à l'antenne. Bon, qu'est-ce qu'il veut, le japonais? Brochette ou merguez? Non, mais moi, je suis le chinois, fieux. Oh, putain. Pourquoi vous avez changé de place? Attendez, c'est pas pour dénoncer, mais Adolphe, il écoute rien du tout depuis le début. Ça va, Adolphe? Tranquille, on ne te dérange pas? Déjà qu'il nous a pris l'Alsace alors qu'il faisait des flammes-cuches formidables, on adorait les tartes aussi. Mais alors, Adolphe, brochette ou merguez? Ah, je suis vegan! Oh là là, toujours là pour casser l'ambiance, lui. Mange donc un peu de barbecue et arrête de peindre. Ne me dites pas d'arrêter de peindre, ça me tend! Bon. On se calme. On est ici pour le traité de paix. Que c'est qui veut me traiter de paix? Non, mais... Personne ne vous insulte, Chang. Oh là là, le raciste ici, il appelle le chinois Chang. Non, c'est parce que je m'appelle Chang. Ah, pardon. Mais alors attends, le saké, ça a quel goût? Eh mais non, là, le saké c'est japonais. Oh là putain, j'y comprends rien. Bon, qui bouffe du chien? Ah, ça par contre, c'est raciste. Attendez, je rêve ou Hitler vient de me parler racisme? Là, les cinq se marrent, font la paix avant même d'avoir entamé la guerre et tout se termine dans la bonne humeur. Les bonnes odeurs, on entend même une chanson qui accompagne parfaitement l'ambiance grâce au chanteur préféré des amateurs de barbecue, Alain Grachung.
Moi, lui mets dans le Vercors, je serai sur mon slip, de l'alcool fort et puis des chips. Il y aura des chipots pour Muriel, des entrecôtes, des rognons de porc et du rosé. On fera griller du camembert dans la lune sur le brasier et on se resservira des verres dans l'odeur de fumée du barbecue. Attention, refrain. 3, 2, 1, hey! Le 8 mai, je glande, je fais bien grossir ma bedaine. Le 8 mai, je glande, je bronze dans le jardin. Il y a des merguez pour tout un bataillon. C'est sûr, il y en aura encore beaucoup trop. Puis c'est la même phrase, vu que c'est un bif. Un bis, c'est sûr, il y en aura encore beaucoup trop. Merci et bon barbecue lui.
Merci, j'ai
aimé.
Et nous serons en direct le 8 mai, cher ami, avec Bruno Solo qui sera notre invité. Mais pour l'instant, Jean-François Piège est là pour nous parler de ses recettes super faciles pour faire aussi bien que le chef. On a l'impression que ce qui inquiète le plus les éventuels lecteurs de livres de recettes ou ceux qui veulent se mettre à la cuisine, c'est justement la difficulté de se dire « est-ce que je suis capable de le faire ?»
Exactement.
C'est ça. C'est
non, le seul frein. Ou de faire pareil, c'est ça le truc. Mais je pense qu'en fait, la cuisine, il ne faut pas faire pareil. Il faut faire ce qu'on peut. Et ça suffit.
Non, mais c'est vrai. Mais c'est pas toujours bon. On rate des trucs aussi.
Bah, quand on a déjà une indication, moi je dis, une recette, c'est pas une prison. Faut pas s'enfermer dans la recette. Faut se l'approprier. Faut la faire vivre. Et puis voilà. Et
faut moi, au moins la faire une première fois, comme vous le dites. Et après, régler comme on le souhaite.
Exactement.
Est-ce que, puisque vous parliez tout à l'heure de la cuisson et de la digestion, gluten, pas gluten, si c'est plus, enfin, moins c'est cuit, moins c'est bon à digérer. Est-ce que là aussi, les farines complètes, sans gluten et ainsi de suite, enfin, tout ce qui se fait peuvent rentrer en tout cas dans l'utilisation pour les tartes.
Et, oui. Et nous, on a un moulin qui nous fait une farine incroyable parce qu'en fait, ils prennent des farines qui sont cultivées de façon responsable. Ça veut dire que...
Vous avez de la demande pour du sans gluten dans vos restaurants?
Oui. Ouais. Ouais. Mais nous, dans la cuisine, on n'utilise pas beaucoup de farine. C'est-à-dire toutes les sauces, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de... Donc on n'est pas...
Dans les tartes, il n'y a que ça par contre.
Oui. Mais j'allais dire
faire une tarte sans farine
dans la cuisine, d'accord. Et c'est là où j'y arrivais. La pâtisserie, c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus délicat. Après, il y a des choses intéressantes avec d'autres farines.
Mais faire
par exemple en ce moment on fait quelque chose avec du tapioca. On fait des choses intéressantes. Et j'ai fait une
intéressante, ça veut dire pas bon.
Ah non, c'est-à-dire qu'on est au début de la recherche. Voilà, on est au début de la recherche.
C'est qu'on n'a pas encore réussi.
Là, je fais une tartine de confiture sans pain au moment du dessert. C'est du riz de Camargue, du riz sauvage de Camargue, cuit. On le fait cuire, on le fait sécher. Une fois qu'il est séché, on le fait frire, il souffle. Et on l'enrobe d'un sirop et on le met sur une plaque. Le sirop en séchant.
Rien que là, déjà, j'en ai envie.
Je suis perdu. Non, surtout, moi, je suis perdu.
Mais non,
non moi, j'ai ça là.
Et ça fait comme des biscottes.
En fait, il prend du riz. Est-ce que j'ai bien compris ou pas, Jean-François?
Ouais, c'est ça.
Il prend du riz. Il de Camargue.
C'est important. Sauvage de Camargue. Ouais, c'est important.
Ok, pardon, c'est super important. Riz sauvage de Camargue.
Il fait cuire.
Il le cuit. Après, il le laisse sécher. Il en fait des tartines, quoi. Il en fait des galettes. Ces galettes-là, il les fait frire. Et on a même la photo déjà.
Et après, le riz souffle.
Et en fait, je voulais faire une tartine de confiture dans mon dessert. Je voulais faire une tartine de confiture sans pain.
Ça fait un toast. En fait, ça fait un toast.
Ça fait un toast, ouais. Mais sauf qu'on a le côté du riz sauvage qui est légèrement caramélisé et soufflé, donc qui est léger. Et dessus, je mets cette crème double dont je parlais tout à l'heure. Et en dessous, c'est des fraises qu'on a fait cuire. Et on a gardé que le jus. Donc on boit une tartine comme une tartine de confiture. Dans l'imaginaire, c'est du pain, du beurre ou de la crème et de la confiture. Et en fait, je me suis éloigné de ça. Et quand on mange le riz et la crème et qu'on boit en même temps le jus de fraise, ça reconstitue en bouche une tartine de confiture sans qu'elle soit là. Mais ça, c'est plus de la gastronomie, hein. C'est
ah
pas.
Oui. Ah, bah oui, ça, c'est sûr. C'est la magie. Pas, on n'est pas à la cantine de France Inter. C'est sûr. Voici
ça se trouve.
La bande originale de La Vie de Jean-François Piège. Vous écoutiez Jean-François en 87.
Et 87, Jean-François, c'est l'école hôtelière.
Oui.
Quel souvenir vous gardez de cette étape? Parce que ça doit être... c'est assez fondateur, j'imagine.
D'un professeur.
Ouais.
C'est
Jean-Paul Hénin.
Jean-Paul Hénin, ouais. C'est quelqu'un qui... sur lequel j'ai une tendresse particulière, parce que je pense que dans la vie, on fait des rencontres qui vous marquent. Et elle m'a marqué parce qu'il a allumé la mèche de la passion. C'est quelqu'un, quand il nous... quand parfois, j'entends quand on parle des professeurs, ça m'embête, parce que moi j'ai eu cette chance de rencontrer quelqu'un qui nous faisait partager ses moments de cuisine quand il était en dehors du professorat.
Ce qui vous embête, c'est qu'on en parle mal des professeurs.
Exactement, j'avais mal terminé ma phrase. Merci
non,
de moi.
Non, c'était pour...
mais qu'on en parle mal, parce que je pense que c'est des gens comme ça auxquels on doit avoir un grand respect, parce que si on est les hommes et les femmes qu'on est aujourd'hui, c'est parce qu'on a rencontré ces...
Non, mais ce qu'il faut souhaiter à chacun, c'est d'avoir un prof...
Oui, mais des rencontres.
Ouais. Qui bouscule ouais. Sa vie, quoi. Ouais.
Mais moi, c'était la cuisine. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait ce métier-là, mais c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel.
Il enseignait quoi?
La cuisine.
C'est la cuisine. Est-ce qu'il y a un plat de lui que
non,
vous...
c'est des moments.
Ouais.
C'est des moments. Vraiment.
Quelles sont les valeurs qu'il transmettait?
La passion. La passion, le fait
mais
de...
Mais ça, ne s'invente pas, la passion, on l'a pas.
Et lui, il l'avait, et
Elle l'a, cette chanson, elle est pas pour rien aussi. On l'a pas, mais ça s'invente pas.
Non, mais lui, il l'avait. Et je pense qu'il était passionné de nous faire vivre des émotions en cuisine. Et c'est ça le métier de cuisinier, c'est faire vivre des émotions.
Est-ce que vous réussissez à transmettre, vous aussi, ou est-ce que c'est un don aussi, la pédagogie? On n'est pas tous profs, on peut avoir eu la chance d'avoir vu notre vie basculer grâce à un prof, mais on ne sait pas forcément, nous,
non,
faire basculer la vie des autres.
Je ne sais pas, je pense que c'est aux autres à le savoir. En tous les cas, c'est au moins d'avoir cette volonté de transmettre et de partager. Moi, je suis plus dans le partage de ce que je fais à manger. Lui, il était plus dans le partage de moments de cuisine, c'est ça qui est différent.
Enfin, vous partagez la recette que du livre, la recette.
Oui, je suis pas mieux avec des tartes,
c'est ça. D'accord. Non.
C'est le producteur qui parle là.
En 91, vous écoutiez Stéphane Escher. Déjeuner en paix, c'est pour la vanne que vous avez choisi ça ou pas?
Mais ça marchait bien.
Hein. Déjeuner en paix. D'ailleurs, à propos, il y a un rituel quand vous mangez? Pas question qu'il y ait de musique, pas question qu'il y ait du bruit, ou au contraire, ça peut être la fête?
Bah, malheureusement.
Ça dépend de l'endroit, non?
C'est exactement ça. Et ça dépend si c'est la semaine, quand je travaille, les déjeuners, c'est quelque chose d'assez restreint.
Vous mangez jamais? Peu, en tout cas.
Si, mais vite.
Ah ouais?
Malheureusement, vite.
Ce qui n'est pas bon, ouais.
Bah oui, parce que. On peut pas tout faire. Hein.
Et c'est vous qui préparez votre déjeuner ou pas?
Parfois oui, et parfois les équipes.
Avec tout le personnel que vous avez.
Ouais, c'est ça. Je me fais servir, c'est ça.
Et t'imagines la pression, tu prépares leur repas pour Jean-François Piège.
Bah justement, la pression...
Mais le mec il peut d'un coup grimper en échelon, non, s'il réussit son coup. Ouais.
Et inversement.
Ouais.
Et inversement.
Tu vois? Ah,
non, moi j'ai un souvenir quand j'étais à l'Élysée. Je me souviens, c'était une vraie tradition, on faisait manger au chef qui s'appelait Joël Normand. Et tout le monde voulait...
être celui qui lui fait manger?
Oui, et puis celui qui en fait le plus. Et lui, il félicitait les gens qui faisaient les choses les plus simples, les mieux assaisonnées. C'était une vraie leçon de cuisine pour moi. Et je me souviens se lever un jour, aller voir quelqu'un, c'était pas moi, mais j'étais dans la pièce en disant « tes carottes râpées sont dingues ».
Ouais.
Comme quoi, toi, voilà.
Plus simple.
Ouais.
Justement, vous êtes resté 10 mois, on l'a dit tout à l'heure, dans les cuisines du Palais de l'Élysée. C'était en 91. 3 mois aussi, directement en prise avec le chef de l'État. Donc, on a évoqué la faute d'orthographe tout à l'heure. Ça veut dire qu'on apprend à cerner les goûts aussi. Là, c'était de
François Mitterrand.
De Mitterrand.
Mmh. Ouais. Bah là, c'est assez facile parce qu'il y a un protocole. Là, on
sait déjà ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas.
Oui. Et puis, il y a une deuxième chose aussi, c'est qu'à l'Élysée, on fait aussi en sorte avec les convives. C'est-à-dire que c'est le président qui reçoit, on fait ce qu'il aime et on fait ce que les convives vont aimer.
Ça veut dire qu'il y a une liste pour chaque...
Oui, le protocole se...
renseigne sur les contre-indications alimentaires de telle ou telle personne.
Exactement.
Et est-ce qu'on n'a pas envie de relever le défi de se dire, tiens, si tel chef d'État n'aime pas tel...
Non, j'ai quand même eu de rien à foutre. Il est allergique aux fruits de mer, tu seras un bâton.
Non, mais parce qu'on peut redécouvrir des goûts.
Oui, alors ça, c'est plus aujourd'hui, nous, dans nos restaurants, on s'amuse à titiller des gens qui sont pas forcément, qui ont pas forcément envie de manger quelque chose, donc on essaye de leur fermer. Quand on est à l'Elysée, on fait ce qui marche.
Ouais, vaut mieux. En 2001, vous écoutiez Zazie.
Et en 2001, vous êtes au Plaza Athénée, qui a ouvert d'ailleurs le jour de vos 30 ans.
Le
et c'est 3 étoiles décrochées par ce restaurant d'Alain Ducasse, au guide Michelin. La collaboration avec ce grand chef là aussi.
Qui les a, pardon, les 3 étoiles à ce moment-là? C'est le restaurant, c'est vous, c'est Ducasse?
Non, je sais pas. Moi, je sais pas. Bah, je sais qui était en cuisine, mais je sais pas qui les a eus.
Ok. Donc, d'accord. Ça veut dire que c'est lui qui cuisinait,
oui,
mais c'est Ducasse qui a eu pris les étoiles.
C'est le restaurant qu'il a eu.
Ouais, c'est le restaurant qu'il a eu. C'est un truc un peu ambigu. Hein.
Ouais.
C'est jamais très clair.
Non, enfin, si un chef se casse dans un restaurant, le restaurant ne garde pas ses étoiles.
Parfois si, parfois non.
Ah bon?
Ouais, c'est compliqué. Ouais.
D'accord.
On va en parler dans quelques instants. On peut partir avec ses étoiles sous le bras. C'était quoi votre plat signature à l'époque?
Après Olivier Garot, on arrive.
C'était quoi votre référence à vous?
Le plat qui a marqué quand on a ouvert, c'était des langoustines refroidies au caviar. Des langoustines juste cuites à la vapeur.
Coûte un bras, ça, non, j'imagine.
En plus.
Oui, c'est du luxe, mais on est au Plaza. Hein. On est dans un environnement.
Donc une obligation de faire du.
Non, il n'y a pas que. Non, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on voit bien la cuisine qu'ils font sur la naturalité. Elle est revenue à des ingrédients qui sont parfois basiques.
Ils ont des coquillettes en ce moment.
Bah ouais, mais tu peux rater des coquillettes. Il y a des bonnes et des mauvaises coquillettes.
Mais les étoiles, c'est pas le luxe ou pas le luxe. Les étoiles, c'est bien ou pas bien.
C'est ça.
Alors justement, à propos d'étoiles, en 2011, vous écoutiez... Et 2 étoiles, cette fois-ci, alors là, on sait, c'est pour Jean-François
c'est
Piège.
C'est pour vous, le Jean-François Piège, c'est le nom du restaurant, comme ça, on n'est pas perdu.
Au restaurant, il y a lui.
Voilà, 2 étoiles au guide Michelin. En votre nom, j'imagine que là, c'est aussi le début de quelque chose, cette fois-ci.
Ouais. Mais après, de toute façon, moi, j'ai toujours pensé que qu'on soit chez soi ou pas, il fallait donner le meilleur de soi-même, pour soi ou pas, sinon on ne le fait pas. Donc là, en plus, quand c'est à soi, c'est une petite concrétisation qui est pas mal, mais ça n'a pas changé grand-chose au fond de moi-même.
Et vous êtes élu aussi chef de l'année.
Oui, ouais, c'est chouette ça.
Par 6000 de vos pairs, donc là, on est vraiment au cœur du métier. C'est une reconnaissance.
Et puis, en 2018, le grand restaurant est élu meilleur restaurant de l'année aussi, 2018. Ouais. Donc c'est la totale.
Ouais, c'est pas mal.
Bah oui, vous devriez continuer.
C'est chouette. Ouais,
je vais essayer. Jean-François.
Alors, à propos de continuer, il y a donc la poule au pot dont vous parliez. Il y a une nouvelle signature que vous avez, que vous allez avoir aussi dans Paris, c'est ça? Un nouveau restaurant parisien?
Oui, on a racheté un bistrot qui s'appelle L'Épidore, qui est rue Jean-Jacques Rousseau, qui est juste en face de la Bourse de Commerce, qui va devenir la Fondation d'Art Contemporain. Il s'appelle L'Épidore parce que c'est là où les courtiers en blé aller se restaurer après avoir vendu à la Bourse de Commerce.
Un prix d'or, le blé.
Exactement,
c'est ça
exactement.
C'est exactement dingue.
Ça, ouais.
Et quelle est la spécialité de cette carte?
C'est une proposition parisienne ou traditionnelle? On va pas faire une deuxième poule au pot, on est en train d'y travailler et on n'est pas prêt encore pour le dire, mais ça sera peut-être autre chose.
Et vous devenez également chef à Gordes, à la Bastide de Gordes.
Oui.
Ça aussi, c'est une nouvelle aventure parce que déjà, elle n'est plus parisienne, parce que là, le sentiment que l'on a, c'est que tous ces restaurants sont très...
très parisiens.
C'est très périphérique, intramuros. Hein. Ouais. La Gordes, c'est aller dans une région qui sonne dans votre enfance aussi.
Oui, qui sonne dans mon enfance et une expression très différente. C'est pour ça qu'elle est à la fois sur le green et sur le grill, parce qu'on va cuire au feu de bois et qu'on va travailler des légumes. D'ailleurs, j'y étais mercredi dernier, on a trouvé...
Il y a un jardin là-bas, non?
Non, mais peut-être qu'il y en aura un jour, parce que c'est l'endroit pour le faire déjà. Et on a trouvé une productrice à Gordes qui fait des fraises, qui fait des cerises.
Il est en train de chercher pour moi qui nous parle, il cherche des photos de fraises.
Non. Sur la première, parce que personne ne l'a vu. Je suis désolé, c'est la radio et ça se voit pas.
Bon, mais on va le mettre sur le site de l'émission.
Même pas, parce que pour l'instant, c'est secret.
D'accord.
C'est secret. Et non, mais
il ouvre quand le restaurant à Gordes? Normalement
mi-juin.
D'accord.
Bien sûr.
Ouais, je suis sûr.
D'accord.
Je suis sûr.
Olivier Gergaud, bonjour. Merci de venir à ce micro. Vous êtes professeur d'économie à la CAGE, c'est-à-dire une école de commerce.
Absolument. C'est ça, oui. Bordeaux, Marseille, Paris.
Voilà. Et vous êtes également au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po. Et dans le cadre de vos travaux, vous avez dirigé une étude sur les conséquences financières et économiques des restaurants auprès de l'obtention ou de la perte d'une étoile. Ça vaut quoi d'ailleurs, une étoile? Est-ce que c'est quantifiable ou pas?
Bon, oui, on peut quantifier quand on regarde les comptes de résultats des grands restaurants. Ils sont disponibles de manière assez large. Il faut ensuite matcher avec les indications du Michelin, puis on regarde un petit peu quand il y a des évolutions, ce que devient le chiffre d'affaires, ce que devient le profit, etc. On regarde aussi l'évolution des prix, et grosso modo, le Michelin, quand on gagne une étoile, on gagne grosso modo 30% de chiffre d'affaires, c'est quasiment instantané en un an, hein, donc c'est énorme.
30% de chiffre d'affaires, ça veut dire que les clients, il y a des clients qui ne vont dans un restaurant que parce qu'il a des étoiles, en se disant, bah, s'il y a des étoiles, c'est que ça doit être bon, donc on y va. Mais est-ce que ça veut dire que les prix augmentent de ce même restaurant?
Les prix augmentent généralement de environ 25 à 30%,
aussi.
Pas immédiatement.
J'ai un nom dans la tête de Jean-Marc.
Jean-François me fait signer, me dit
45%.
Alors, il faut aller chez Jean-François parce qu'il augmente pas ses prix, donc c'est bien, mais par contre, il doit répondre plus souvent au téléphone. Probablement, puisqu'on peut pas pousser les murs, et Michelin est quand même extrêmement suivi et draine beaucoup de demandes, ce qui veut dire que Jean-François, vous devez avoir beaucoup plus d'appels depuis qu'il y a une étoile.
À la poule au pot?
Oui.
C'est différent pour nous et faut prendre ça avec beaucoup d'humilité. La poule au pot, il y avait du monde depuis 85 ans. Donc, c'est un restaurant historique. C'est peut-être pas le bon exemple. En revanche, le menu qui était présent à la poule au pot avant l'obtention d'étoiles est le même aujourd'hui.
Donc c'est la manière, c'est la manière de le faire.
Ce qui fait le prix des menus, c'est pas les étoiles, c'est les ingrédients qu'on met dans le menu. Ouais.
Non mais pardon, j'imagine aussi qu'il y a des
effets moyens.
Non non, il y a des charges aussi du personnel, du nombre de personnes employées.
Ça c'était les étoiles avant. Aujourd'hui, on voit bien que le guide Michelin envoyait un message différent aux restaurateurs, que il y a des restaurants qui ont une étoile, qui ont des spectres différents. Une étoile aujourd'hui, je pense à la poule au pot, à Paris, il y en a d'autres. Il y a des bistrots qui ont eu une étoile, Racine par exemple. C'est pas un restaurant où le luxe est apparent. Ils travaillent sur la cuisine. Les étoiles, en général, c'est l'assiette. Alors, donc, c'est un petit peu changé. Hein.
Alors justement, quels sont les critères, à votre avis, du guide Michelin, Olivier?
En fait, les critères, effectivement, Michelin indique que c'est uniquement ce qu'il y a dans l'assiette hein, qui compte. Mais bon, ce que l'on constate de manière générale...
Il y a la nappe, si elle est en papier, ça passe moins bien, non, j'imagine.
Parce que ce que l'on a constaté, les études que l'on a effectuées, montrent que le cadre aussi a son importance. Et qu'avoir un cadre luxueux, être dans un établissement... Enfin, quand on est dans un coin de Paris plutôt luxueux, aide globalement à obtenir des étoiles. Ce qui nécessite globalement des investissements assez massifs.
Bien sûr.
Et donc, le supplément de chiffre d'affaires, de manière générale, est consacré à l'investissement. Ce qui veut dire que quand on regarde
la décoration, la manière dont le voiturier, si les toilettes sont bien aménagées ou pas, tout ça, ça peut rentrer psychologiquement dans la vie du guide Michelin.
Ça rentre, c'est lié. On a montré ça. Et donc, ça nécessite un investissement.
Avoir de l'eau chaude quand on se lave les mains aux toilettes, c'est
important, hein, bien sûr.
Ça, c'est du bon sens. Hein.
Mais c'est pas le cas dans tous les restos.
Donc, ça tient à pas grand-chose. L'eau chaude aux toilettes et bim.
Voilà. Exactement. Et du papier qui sent bon, tout ça.
Est-ce que c'est vraiment encore le plus prestigieux des classements, le guide Michelin?
Oui, clairement. Les restaurateurs recherchent ce classement. Un peu moins les jeunes.
Je crois pas.
Une nouvelle vague. C'est ce que je dis.
Là, on le voit quand même avec les dernières attributions. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été récompensés. On voit à Paris et ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, le guide Michelin reste la référence.
Bien sûr.
Sur la jeune génération.
Bien sûr. Alors c'est un moyen de reconnaissance. Et puis effectivement. Donc,
et à l'inverse, quand on perd.
À l'inverse, quand on perd. Donc on a beaucoup investi pour se doter d'un cadre extrêmement luxueux. Et puis quand on est endetté auprès des banques, il faut rembourser, il faut continuer à générer du chiffre d'affaires. Donc quand on perd cette étoile ou une étoile, on a moins de chiffre d'affaires et donc une capacité à rembourser qui est plus faible. D'où un certain stress.
Et ce stress pouvant aller très très loin dans le soit la déprime, soit le suicide de certains grands chefs, malheureusement.
On peut pas l'affirmer évidemment, mais enfin en tout cas, les psychologues montrent que lorsque l'on gagne de l'argent, ça fait un peu plus d'argent, ça fait très plaisir. Par exemple, mettons plus d'eux en utilité. Mais quand on en perd, bah, l'impact psychologique est double. Donc en fait, perdre, être rétrogradé, c'est quelque chose d'extrêmement sensible.
Et c'est vécu comme
sensible.
Humiliant par moment.
Humiliation, bien sûr. Et puis c'est dangereux.
Marc Vera qui a perdu sa troisième étoile et qui a déclaré que c'était pire que la mort de ses parents.
Ouais, c'est violent. C'est violent, ouais, bien sûr.
Enfin, il dit beaucoup de conneries.
Non, mais au point que...
Mais il faut déclarer ça de manière spontanée, c'est dur. Ouais,
il faut respecter.
Au point que certains chefs se retirent, ont demandé à être retirés du Guide Michelin.
Certains chefs, effectivement, souhaitent se retirer du Guide Michelin pour éviter cette pression. Hein, donc, mais bon, on a besoin du guide Michelin. On a besoin d'un guide qui oriente les consommateurs qui n'ont pas d'informations ici et là. Donc, on a besoin d'un guide entre guillemets bienveillant. Et je crois qu'effectivement, Jean-François le disait, il y a une évolution très récente avec la nouvelle direction du guide Michelin qui essaye un petit peu de démocratiser tout cela. Moi, je pense qu'il faudrait clarifier les choses et donner des étoiles à des établissements qui sont type bistrot avec une catégorie bistrot. On aurait 3 étoiles bistrot et 3 étoiles gastro. Trois étoiles.
Ouais, c'est pas bête. Bah,
voilà.
Et
on réglerait le problème.
Merci beaucoup Olivier, vous êtes très ponctuel en plus. Merci. Olivier Gergaud. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Oui, bonjour Nagui.
Vous allez nous parler de vos vacances, vu le bronzage, vos vacances et d'environnement.
Oui, bah, je profite de l'actu pour raconter un peu ma vie. Hein. C'est le premier signe de la mégalomanie. Bientôt, je serai sur Instagram à faire des photos de ce que je mange. À 90% du tofu, donc le public va se suicider. Sinon, à Metz, joue l'avenir de la biodiversité. C'est le G7 avec Rugy et Brune Poisson. C'est vous dire si on est mal barré.
On en parle après les infos. La bande originale avec les lacs de Boutadi.
Bonjour à
tous. Daniel Morin.
Ah, bravo Daniel.
Albert Agout.
Bonjour.
Jérémy Crépine.
Bonjour.
Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Et notre invité, le chef, Jean-François Piège.
Miam.
Les tartes de Jean-François Piège, tartes pour tous, des recettes super faciles pour faire aussi bien que le chef chez Hachette Cuisine. J'ai pas calculé, mais il y en a énormément de ces recettes. Il y en a combien à peu près?
62, non?
60 tartes.
C'est ça. Pas mal.
Et même des conseils pour la conservation des
25
tartes.
25 salées, 31 sucrées.
On les conserve au frais, pas au frais?
Exactement. S'il y a de la crème, au frais. S'il n'y a pas de crème, pas au frais.
Voilà. C'est parce que le beurre tourne, c'est ça le problème?
La crème, ouais,
absolument. Ouais, enfin, crème et
le spécialiste.
Crème et autres. Justement, on parlait tout à l'heure de la tendance gluten, pas gluten. Il y a aussi la tendance maigrir, pas grossir. Là aussi, il faut faire attention à la quantité de beurre. Tout à l'heure, vous avez dit il y a deux fois plus de beurre, deux fois plus de sucre.
Et j'ai pas dit la meilleure. Plus légère, j'ai dit la meilleure.
Ouais. Ah ouais. Mais est-ce que tarte et légèreté vont ensemble?
Pas sûr. Ouais. Je suis pas sûr. Parce que de toute façon, pour que ce soit bon sur la tarte, comme il y a de la farine, il faut mettre de la matière grasse. Après, on peut manger, on peut manger sainement, sans forcément
c'est une question
de matière
dosage. Ouais, c'est
exactement.
Ça. Ouais.
Moi, les asperges aujourd'hui, je les cuis dans le riz. Il n'y a pas un pet de matière grasse. Elles sont pas cuites à l'eau. Elles ont un goût d'asperge de dingue. Et pourtant, nutritionnellement, c'est parfait.
On en avait parlé, c'est vrai qu'on avait parlé de cette recette ici. Et mais vous êtes très riz entre le riz qui remplace le pain et le riz qui s'arrête sur les asperges.
C'est un terrain d'expression qui est assez vaste. On peut faire pas mal de choses.
C'est le prochain piège, le riz pour tous.
N'empêche que le riz, on peut le cuisiner aussi.
C'est la céréale la plus consommée au monde.
C'est vrai?
Ouais.
Plus consommée parce que la moins chère, j'imagine, pas forcément parce qu'elle a...
Parce que les Chinois sont nombreux.
La fan raciste.
J'attendais.
Oh, c'est pas raciste, mais ils sont un tiers de l'humanité en habitant, donc ils mangent du riz, ça n'a rien de raciste.
Je sais pas s'ils mangent que ça.
Beaucoup.
Ça, il y a un peu de chien.
Ouais, voilà.
J'ai pas osé le dire.
Il a plongé dedans. Ça s'est senti depuis le départ. Franchement...
Bon, ça va, toi qui fais cuire les oignons tout creux.
Tu
manges des oignons
dans j'appellerai Jean-François.
Sans les peler.
Les oignons tout entiers, tout crus. Cuire les oignons tout crus. C'est normal, ça.
Toi qui fais cuire les oignons tout crus. Ça, c'est formidable.
Eh ben, on est bien.
Je crois que.
Ah, je te jure.
On va vite repartir en vacances.
La tarte au
poil. Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, vous, le grand défenseur de l'environnement, vous avez pris l'avion ?
Oui, Nagui, j'ai honte. Ça fait 7 jours que je me fouette avec des orties bio, en imaginant que c'est Yann Arthus-Bertrand qui me frappe, sa moustache trempée par l'excitation. Je suis à deux doigts de demander à Greta Thunberg, la suédoise prépubère qui porte un nom de bière scandinave, de m'entourer les testicules avec ses nattes avant de tirer dessus d'un coup
pas,
sec.
Non.
Puisque je dois être
très belle recette.
J'attends de France Inter, radio éco concernée, peuplée de barbus crado qui carbure au boulgour, qu'elle me licencie car j'ai fauté. J'ai trahi la planète, pire que si j'avais couché couché avec Pluton. Il y a 10 jours, en effet, j'ai pris l'avion. Et pas pour aller à Dubaï me faire cuire l'arrêt comme tous les beaufs. Oh. Non, pour depuis Paris me rendre à Toulon. Trajet faisable en train. Ce mode de transport gâché par les gens est foutu de comprendre que les coups de fil se passent depuis la plateforme dédiée, c'est-à-dire tout le monde. Je vous explique, nous les artistes avons un staff qui s'occupe de tout. Trajet, hôtel, la grande vie. Hein. Moi, au Formule 1, j'ai toujours la chambre qui donne sur le magasin Auchan. Pour le début des 8 jours de la crêpe dentelle à Douarnenez, j'ai quitté ma chambre à 8h55 pour ouverture du Auchan à 9h. Bref, j'ai la même vie que Maria Carré, mais sans les boobs. Ce que je regrette, parce que je secourais mon buste 24h sur 24, rien que pour les voir bouger. Oui, il reste en moi un soupçon de kékéitude ultra-genrée, issu de siècles de domination du mâle blanc sur les métis à gros seins. Mais je lutte pour tuer ce monstre tapis dans mon âme en écoutant des communiqués de l'UNEF lus par Christine and the Queens. Mon tourneur m'a donc fait prendre l'avion et j'ai réalisé trop tard que mon Paris-Toulon avait indirectement exterminé des ours polaires qui, là-bas au pôle, sont obligés de tenir à 14 sur un glaçon de la taille de ceux que sucent les Marseillais en Asie en espérant chauffer les Marseillaises, alors que celles-ci sont occupées à s'épiler le oui-oui à la bouillabaisse chaude. Oh. Oui, j'ai pris l'avion sur un vol intérieur, alors que notre pays est moins gros que l'ego de Ségolène Royal. Je ne suis qu'un misérable, une ordure, un pourri, un fan d'Amel Bent. Mais Dieu, ou Mbappé pour vous, Nagui, c'est pareil, m'a puni. Car à Orly, qui vois-je dans la file d'attente de mon avion? Je vous laisse deviner, il est triste et sapé comme un sac, si bien qu'à Leclerc, il est interdit depuis 2005, coiffé comme Mireille Mathieu sous Exta. Oui, Eddy de Préto. Eddy de Préto, que j'ai souvent moqué ici même, était à 2 mètres de moi, mais les larmes dans ses yeux l'empêchaient de me voir. On était sur le même vol. Il faisait dès le décollage, la tête qu'il aurait eu si on s'était craché sur les Cévennes. Ni une ni deux, mu par le désir de créer une interaction sociale avec vous, Nagui. Je vous SMS pour vous raconter ça. Vous me répondez smiley lol, puis vous vous souvenez que je suis un littéraire. À 25 ans, j'avais lu tous les Fantomètes. Donc vous m'écrivez, imagine le communiqué de presse si l'avion était tombé. Hein, en effet, Air France aurait écrit « Mort d'une star de la chanson et d'un comique inconnu ». On aurait été associés dans la mort. Heureusement, Mbappé a décidé de nous laisser vivre. Alors, de Préto à l'atterrissage a hurlé « Zut, encore raté, j'en peux plus d'être en vie », puis a tenté de se trancher les veines avec Air France Magazine, journal où Patrick Bruel vante les joies d'une existence simple avec au poignet une montre Baume et Mercier.
Bon, on peut pas compter sur vous, mais à Metz, il y a le G7 de l'environnement.
Ah oui, alors ça déjà le concept est barré. Hein. Les plus gros pollueurs du monde qui se réunissent pour dire on va lutter contre la pollution. C'est comme Ariel Dombal dans son jet privé qui dit on save the planet avec la bouche en cœur. Hein, les mecs cherchent une solution sans comprendre qu'ils sont le problème. Le jour où ils vont réaliser, ils vont se foutre dans le bac à compost après en avoir retiré Eddy de Préto en train de hurler purée mais laissez-moi crever. Hein, rien que la délégation française c'est la loose. François de Rugy hein, dont la grosse actu c'est qu'il y a 8 jours il s'est rendu aux eaux de Beauval voir si le petit neveu de Brigitte Macron, là, le panda Vuitton, allait bien. Et Brune Poirson, qui récemment a manifesté avec des jeunes devant son propre ministère, elle s'est rendue compte que ça n'avançait pas, a crié Poirson démission. Dans sa tête, il y a plus d'individus que dans une scène de bataille d'un péplum des années 50. Donc là, les pays riches doivent fixer un agenda pour protéger la biodiversité, parce que sinon les 300 bêtes restantes vont toutes finir aux eaux de Beauval, et le petit Vuitton devra partager son enclos avec tout ce qu'on aura sauvé. De Rino, 3 girafes et les bestioles que Cohn-Bendit a chopées en 68 en kibbutz. Hein, mais l'agenda démarrera après 2020. Et à chaque fois, c'est pareil. On repousse. En 2021, on dira, allez les gars, on fait quoi pour 2024? Et ainsi de suite. Le jour de la fin du monde, on sera toujours en réunion dans un palais des congrès. Hein, même les employés municipaux dans les sketchs des Chevaliers du Fiel, ils avancent plus. Le souci, c'est qu'en fait, tant qu'on ne change pas de système économique, les profits, la croissance, tout ça, ben c'est qu'il faut pisser sur l'autotune du groupe PNL. Oui, j'ai essayé de moderniser l'expression « pisser dans un violon hein. ». Vous me connaissez, je suis loin d'être un gauchiste. Hein. Du communisme, je n'aime que les merguez de la fête de l'humain. Mais produire, bétonner, consommer à outrance, détruit la planète, point barre. Tant que Macron ne vivra pas dans une yourte en Sologne, leur discours, j'y croirai pas. Et tiens, première mesure, interdisons les vols intérieurs. Personne n'est prêt à faire un Paris-Toulon avec Eddy de Préto.
Merci. La bande originale, Nagui.
sur France Inter.
Tanguy qu'on retrouve le 17 mai au Centre culturel de Saint-Thibaud-des-Vignes.
Il y va comment?
Avec Eddie de Préto.
C'est ça le problème. Mais en plus, tout ce qu'il a raconté était tellement vrai. Quand je lui ai dit, mais si l'avion s'écrase, vous serez liés, mais pour l'éternité. C'était le drame. Tout va bien pour lui. Les tartes de Jean-François Piège. Tartes pour tous, recette super facile pour faire aussi bien que le chef avec des conseils. Comme vous le dites, des conseils essentiels, fondamentaux, faites une
bon
liste.
Sens.
Je vais la retrouver cette liste.
Elle est en début de
elle
recette.
Elle est au début,
ouais,
elle est au début
de recette.
C'est à la fin, là, tes remerciements.
Quoi ? Non, c'est pas la fin, elle est là. Voilà. Respectez les saisons pour utiliser les meilleurs produits de chaque saison.
Oui.
Pesez tous les ingrédients pour obtenir les meilleures pâtes à tarte. Oui. N'hésitez pas à préparer plus de pâtes, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et les mettre de côté le surplus. En été ou en hiver, les températures sont différentes, et c'est là aussi où vous dites qu'il vaut mieux s'adapter et laisser cuire peut-être plus longtemps. Et justement, vous enchaînez en disant, entre pas assez cuit et trop cuit, je préfère la tarte trop cuite. Les temps de cuisson sont...
Cuisson, on dit pas cuisson.
Sont donnés à titre indicatif, c'est parce que là aussi la température ambiante, elle y fait
d'un four à un autre.
Ouais.
D'un four à un autre. Nous, on change de four quand on fait un repas à l'extérieur. On a l'habitude de faire une recette, elle tombe pile poil tout le temps. On change de cuisine. Il y a quelques les asperges, tiens, dernier truc.
Attendez, je prends des
asperges. Dès qu'il me regarde, il dit asperges.
C'est les asperges. Quand je suis venu les dernières, voilà, on est en pleine saison. Les asperges, on les cuisait de 12 à 14 minutes cette année. C'est 8 minutes, je ne sais pas pourquoi. Vous dire, c'est en revanche les mêmes asperges. Non, ce n'est pas les mêmes. Il y a une année d'écart. Mais probablement que la saison a agi sur l'asperge. L'asperge, elle cuise un tiers de moins que l'année dernière.
Vous avez vérifié votre montre ?
Ça marche pas. Donc c'est pour ça qu'il faut être nous on parle de temps de façon indicative et qu'il vaut mieux regarder le résultat de la cuisson.
Et la taille compte pour les tartes.
Exactement.
Grosse tarte, oui, c'est plus longtemps à
cuire. Difficile.
Plus difficile les grosses tartes.
Plus difficile une grosse tarte.
Ouais, parce qu'on sait moins bien la cuire. Ouais. Ouais. Vaut mieux des plus petites tartes, plusieurs petites tartes que des grosses tartes.
Et vous dites à la sortie du four, il faut glisser la tarte sur une grille pour que la pâte reste croustillante.
Oui.
Ne pas la mettre sur quelque chose de trop froid, de trop pas sur un plat immédiatement, c'est ça ?
C'est-à-dire que si chaud et froid, ça fait de la condensation, et la cuisson, c'est enlever l'humidité et toaster la pâte.
Oui,
si on fait de la condensation, eh bien, on va ramollir la pâte. Si on veut qu'elle reste croustillante, on la met sur une tarte, ça va respirer. Sur une grille, ça va respirer.
Alors, la plus facile à faire pour commencer, d'après vous ?
La prompt.
Techniquement.
Je sais pas, c'est celle qu'on a l'habitude de faire. Celle-là, c'est des indications des tartes que je fais, mais.
La bayadère, elle est pas dure à faire, hein, franchement.
Non, elle est longue à faire, mais elle est pas dure à faire. Non. Celle-là, elle est facile.
Bon, ouais.
La tarte anchois, persil et poivron.
Ouais, celle-là, elle est facile à faire. Et il y en a une tarte tomate aussi que j'aime bien. C'est juste du feuilletage. Des tomates coupées en tranches. Ça, c'est une vraie tarte à faire à la maison. Du feuilletage qu'on peut acheter. Si on n'a pas envie de le faire, on le pré-cuit. Une fois qu'il est pré-cuit, c'est-à-dire, il y a la photo juste avant, à blanc, des tranches de tomates, on cuit au four, à la sortie du four, du parmesan, de l'origan ou du basilic, des olives, un tour de moulin à poivre, du sel, et c'est à mourir.
La simplicité, le partage, la générosité, des qualités de Jean-François Piège, mais pas de Daniel Morin.
Rien, toujours rien du côté de la famille royale Rosbif. Meghan Markle n'a toujours pas accouché. Alors la livraison était prévue le 28 avril dernier et rien. Non mais c'est dingue, même chez Amazon, les dates de livraison sont mieux respectées. Du coup, tout le monde devient parano, les paparazzis sont chauds patates. La semaine dernière, la reine, la vieille queen, a été aperçue dans sa bagnole et là, c'était l'hystérie. Elle est dans sa voiture, c'est un signe, l'enfant est là. La pauvre vieille, elle allait juste faire ses courses au drive-in de chez Carrefour. Là, bim, tout le monde lui saute dessus. Si ça continue, elle va mourir écrasée par des photographes à la sortie de chez son coiffeur, la pauvre. Moi, je pense qu'en réalité... L'enfant ne veut pas sortir. Je pense que le Brexit, ça lui fait peur. En Europe, il sent que ça va pas mieux. Il a sûrement entendu dire qu'en France, on avait Francis Lalanne en tête de liste pour les prochaines élections. Et ça, quand tu t'apprêtes à faire ton entrée dans l'humanité, ça fout les chocottes. Moi, je pense que l'enfant effrayé et non encore né, on devrait lui parler de choses positives pour lui faire comprendre qu'en ce bas monde, il y a encore matière à rêver, à s'enthousiasmer, à saliver. On devrait le mettre en confiance et surtout pas le laisser dans la souffrance et l'anxiété d'une arrivée dans un monde aussi inquiétant que flipogène. Tu t'apprêtes à venir au monde, mais cette perspective te fait peur. Le chômage, les gilets jaunes, le dérèglement climatique, le départ de Patrick Sébastien, tout ça te donne envie de rester au chaud. Heureusement, les enfants, pour vous remonter le moral et faire de ce monde qui vous attend un monde pas trop dégueu et prometteur, il y a...
Il y a les tartes de Jean-François Piège pour tous. Paru le 27 février chez Hachette Cuisine, ce livre de recettes est un hymne à la joie de vivre. 25 tartes salées, 31 sucrées, de quoi voir venir les tourments du monde avec le sourire. Exemple avec la tarte feuilletée, tomate, olive, basilic et parmesan. Oubliez la montée du Rassemblement National, non? Et pour ce qui est de la préparation, attention, 4 tomates, quelques olives, du fromage, de l'huile, du sel, du poivre, une grande plaque de cuisson. Tu fais cuire ça en 13 minutes et c'est prêt. Impossible de rater, ou alors t'es sacrément con. Hein? Si tu es plutôt sucré, laisse-toi tenter par la tarte rustique aux pommes. De quoi oublier le glyphosate? Préparation, 3 pommes, 25 grammes de beurre, de la cassonade, 20 minutes de cuisson. Même moi j'ai réussi et pourtant je suis mauvais, j'arrive même à rater les toasts. Voilà de quoi donner confiance et envie aux enfants qui refusent de sortir de leur mère. Lisez-leur in utero, les tartes de Jean-François Piège pour tous. 56 recettes qui donnent envie de dire oui à la vie. Méfiez-vous quand même de la tarte anchois, persil et poivron. Les enfants détestent ça, les anchois et les poivrons. Certains iront même jusqu'à refuser de sortir de leur mère par peur des ingrédients. Les tartes de Jean-François Piège pour tous, chez Hachette Cuisine, 221 pages pour 24,95 €. On est sur environ 10 centimes la page. C'est une très, très, très bonne affaire. Si après ça, le petit de Mégane n'y sort toujours pas, c'est à n'y rien comprendre. À demain.
Merci, les gars. Avec Nagui. À propos de son Altesse royale, je parle pas de toi, hein, je parle de la reine d'Angleterre, à propos du président de la République pour lequel vous aviez servi, est-ce qu'il y a des grands de ce monde qui viennent dans vos restaurants ou qui vous demandent à l'inverse de venir cuisiner pour eux, chez eux, je sais pas, dans leur hôtel particulier ou pour des soirées privées?
Alors, les restaurateurs, c'est les trois petits singes, on va pas dire, hein. Ce qui vient chez nous, je peux dire ce que je fais à l'extérieur parce que récemment, je suis allé signer le repas pour le président chinois à la présidence de la République.
Ah ouais, d'accord. Donc vous êtes retourné dans vos fourneaux.
C'était assez rigolo.
Et ça a changé ou pas?
Pas du tout. Non, rien n'a changé.
Il y a même pas un nouveau robot qui est arrivé.
Non. Mais je crois que d'ailleurs ils ont prévu de refaire les cuisines, mais non, rien n'a changé.
Et ne me dites pas que vous avez fait des aspergeries.
Non.
Pas de vanne. Ok.
Pas de vanne. Le riz était interdit.
Et à l'inverse des non, mais on peut pas dire des stars américaines qui disent je viens manger chez eux. Non, vous avez pas le droit.
Bah non, parce que
ça fait
rêver.
Bah oui.
Bah oui, mais non, nous on ne dit rien.
Si les Beatles se sont reformés chez vous, dites-le, hein, je vous assure,
ça va être difficile là. Ça va être difficile.
Non, mais en plus, il faut pas revenir à leur garantir. Il faut leur garantir ce soir-là dans le restaurant ne pas être embêté par les autres aussi, parce que c'est aussi ça la difficulté, ouais, j'imagine.
Absolument, absolument.
Ouais. Ouais.
Il en manque un d'ailleurs. Non, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a encore une part de création de possible dans votre métier? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment à quel moment on se dit j'ai déjà fait ou j'ai tout fait?
Il a parlé d'une tarte au steak tout à l'heure. Ça n'avait pas été fait, ça.
Non, non, il est au bout du rouleau, là, quand il parle d'une tarte. Il sait très bien que je suis végétarien, il vient me provoquer en parlant d'une tarte au steak.
Ben, j'attendais que vous réagissiez. Ben,
non.
Non.
On réglera nos comptes personnels en dehors de ce micro.
Très bien. Non, parce qu'en fait, on s'aperçoit que parfois, on est au bout et puis qu'il y a autre chose qui arrive.
Mais c'est quoi autre chose, justement? C'est quoi? C'est l'ingrédient? C'est la mode? Est-ce qu'il y a des tendances?
Non. Alors, suivre la tendance, ça serait une erreur, mais suivre ses convictions, oui. Par exemple, là, on vient de faire un jus de céleri. C'est un céleri qu'on a cuit et qu'on a pressé comme du vin. C'est un bouillon de céleri. C'est 100% céleri. C'est quelque chose auquel on n'aurait pas pensé.
Là, il y a quoi? Il y a des avantages nutritionnels, des avantages presque médicaux?
Non, nous, c'est que le plaisir, en fait. Quand on fait la cuisine, je pense qu'au plaisir. Effectivement, après, on l'équilibre dans les saveurs, dans les goûts et dans la nutrition. Mais quand on cherche, d'abord, on cherche que de créer du plaisir. Et ça, c'est un céleri qui est cuit longtemps, qu'on presse, et l'eau de céleri, l'exuda, mais ça a un goût de dingue. De dingue.
Et s'il y a des ingrédients, des nouveaux ingrédients, alors soit des ingrédients qui reviennent à la mode, ce qui peut être le cas des légumes oubliés,
ça fait longtemps qu'ils sont plus oubliés, ceux-là.
Non, mais le céleri, c'est pas non plus un légume tendance, si?
Alors, c'est un légume qui plaît pas beaucoup.
Mais moi, j'adore.
On dit céleri. Mais
moi, j'adore.
Franchement,
mais
très honnêtement.
Dans le sud, on grandit avec le céleri.
Mais oui, mais pourquoi? Parce que c'est un peu.
C'était pas un bon exemple de grand.
Ouais, c'est vrai.
On grandit avec le céleri.
Non, mais chaque fois qu'on. On en parlait tout à l'heure, chaque fois qu'on essaye de faire découvrir le céleri à quelqu'un, en général, on a peu de refus, ça marche bien. Parce qu'en fait, tout le monde a une mauvaise image d'un mauvais céleri mangé à la cantine ou dont...
Je peux témoigner que le céleri rémoulade de la poule au pot m'a réconcilié avec le céleri que je n'ai jamais réussi à manger avant.
Ah non, mais attends, tu parles de rémoulade, moi je te parle du céleri branche, déjà.
Mais déjà, céleri rémoulade, pour moi, c'est
impensable. Les deux céleris, c'est vraiment deux choses. Quand on dit céleri, on n'est pas...
Mais alors, quand on parle de nouveaux ingrédients, il y a quand même quelques années, la mozzarella n'existait pas, la burrata n'existait pas, et ça devient une espèce de tendance. Maintenant, il n'y a pas un restaurant où il n'y a pas.
Mais comme le jambon espagnol, le rabougou, dans les années 90, c'était interdit sur le sol français. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, dans tous les restaurants, il y a presque du rabougou dans tous les menus. Et voilà. Bah, moi, je pense que j'essaye de ne pas tomber dans la mode et toujours chercher des produits plus naturels. La nouveauté.
Là, c'est pas une question de mode. Ce sont des produits qui feront. Bah, le jambon, il existait mais avant. Il était interdit, mais il existait.
Oui, il existait, mais ça veut dire que les restaurateurs s'en sont emparés et tout le monde l'a mis parce que la nouveauté, on la crée pas avec un nouveau produit. Moi, je pense que la nouveauté, on la crée en allant chercher des produits naturels et en étant singulier. Moi, j'essaye pas de tomber en m'appropriant des ingrédients qui viennent d'ailleurs. J'essaye de regarder ce qu'il y a autour de moi et d'aller chercher le plus naturel possible.
Il y a aussi une tendance, alors plus générale, c'est la cuisine italienne, ou la cuisine en tout cas du soleil qui est très...
C'est la cuisine la plus populaire au monde.
Le régime crétois et ainsi de suite.
Non mais italienne, c'est la cuisine italienne. La plus populaire au monde. Hein. On voit bien, il y a même une grande surface italienne qui vient d'ouvrir à Paris. Quoi.
Mais alors ça c'est...
Dédié à la nourriture italienne.
Ah bon?
C'est pas que... Oui, Eat Italy. Mais qui est... là, c'est du commerce pur.
Oui,
maintenant,
commerce.
Pour reparler de la cuisine.
Mais je pense que la cuisine qui plaît le plus à tout le monde, c'est cette cuisine du soleil, la cuisine italienne. Qui c'est qui aime pas les pâtes? Qui c'est qui aime pas les tomates? Qui c'est qui aime pas la mozzarella? Qui c'est qui aime pas cette cuisine?
Moi, je connais
peu de monde. Et c'est pour ça qu'elle est la plus populaire au monde, je pense.
Oui, sauf que dans les régimes minceurs, on vous dira que les pâtes font grossir, que les machins. Ce qui est pas vrai, mais en tout cas, c'est la rumeur qu'elle porte.
C'est ce qu'on met dans les pâtes, surtout.
C'est le beurre qu'on rajoute.
Le beurre, la mozzarella, l'huile d'olive et le fromage.
Quoique la cuisine italienne ne cuisine pas beaucoup au beurre, plutôt à l'huile d'olive.
Plutôt à l'huile d'olive, ouais.
Et vous aussi?
Pas forcément à Paris, parce que ça serait un non-sens. Mais à Gordes, oui. À Gordes, on va cuisiner à l'huile d'olive.
C'est ça. D'accord. C'est plus cohérent. Les tartes de Jean-François Piège, tartes pour tous avec... alors, on n'est pas obligé de faire la pâte avec vous aussi, on peut l'acheter tout de suite.
Je crois que je le dis à un moment donné dans le livre.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui...
Ouais, même il y a 7 pages d'explication pour faire une pâte et à un moment on dit oh achetez-la.
Non, mais ça peut être très bon. C'est comme ce qu'il disait
bon.
Tout à l'heure sur le robot cuisine, c'est qu'à un moment donné on va pas non plus lutter contre les éléments.
Non mais un bon sablé breton à la main ça peut être pas mal.
Oui c'est parce que là, bien évidemment que c'est mieux, mais si vous avez pas envie de faire les pâtes achetez-les et puis veillez à ce qu'elles soient bien cuites et mettez des ingrédients saison dessus, la tarte elle sera super bonne.
Les tartes de Jean-François Piège, c'est chez Hachette Cuisine, les photos sont sublime, je ne sais pas s'il y a un auteur que l'on peut...
Le photographe s'appelle Nicolas Lobastel, il fait 3 livres qu'on fait ensemble et je suis très heureux parce qu'il fait des sublimes photos.
Alors je ne comprends pas, il y a une styliste, excusez-moi, styliste de quoi?
Il faut bien
présenter le produit.
Ouais.
T'as vu comment elle est maquillée, ça, là, aux légumes confits, là?
Il y a une manucure aussi.
C'est la mise en scène, en fait.
C'est quoi le stylisme?
C'est la mise en
scène. Pas.
C'est en général ce qui se trouve dessous.
Ouais.
D'accord. Ah, okay. Oui. Oh,
le plat, regarde.
Watch. D'accord, ok, très bien. Moi, je regardais que le plat, j'avais pas remarqué qu'il y avait.
Alors, c'est plutôt. En fait, c'est qu'elle a bien fait son métier, c'est que.
C'est qu'on n'a pas vu ce qu'elle a fait.
On n'a pas vu ce qu'elle a fait.
Le saladier rose, il est passé.
Et on peut lui rendre hommage, bravo.
Très bien. Les tartes de Jean-François Piège pour tous, donc chez Hachette Cuisine. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oui. Bien sûr, déjà désolé pour toutes les mousses ou encore les crèmes qui m'ont appelé à la pause, qui se sont sentis méprisés pendant cette émission, méprisés par Jean-François Piège. C'est vrai que c'était flagrant et même violent. En même temps, le chef Piège, il est tarte, c'est comme ça, il peut rien. Désolé pour l'intelligence qui a été insultée, niée, tambourinée par l'aveu de Jérémy Crédville qui a reconnu perdre à l'interro en ayant les réponses à l'avance. Alors, rien que pour ça, ça mérite un point, Guérémy. Désolé pour Jean-François Piège, comme tous les chefs qui passent dans cette émission, c'est la tradition. Vous êtes invité aujourd'hui à ce qu'on appelle le Koh-Lanta de l'intoxication, le Fort Boyard de la gastro. On vous invite à la cantoche de Radio France. Allez, je résume, les amis, aujourd'hui, c'est crevettes faisandées, sauce crème oubliée au soleil. Miam, miam. Et désolé pour Rabougo, je sais pas ce qu'il a contre vous, Jean-François Piège, mais en tout cas, vous ne mettrez pas les pieds dans son restaurant. Et désolé pour la styliste, et apparemment, son travail n'a pas été apprécié par Nati.
Non, mais si, j'ai pas remarqué, donc c'est qu'il était réussi. Merci Jean-François Piège. Je rappelle, le grand restaurant, 2 étoiles au guide Michelin, la poule au pot, 1 étoile au guide Michelin, Clover Green et Clover Grill, l'épidore, incessamment sous peu, le temps de...
Non, d'abord Clover Gordes, et à la rentrée, l'épidore.
l'épidore à la rentrée, qu'il a du boulot. Et en plus, on n'a pas parlé de Top Chef, mais c'est vrai que la saison se finit ce mercredi.
Ouais. Qu'est-ce qu'il gagne?
8 mai.
Je sais pas. J'ai pas regardé encore.
Fin de la saison 10 de Top Chef avec Jean-François Piège. Merci Jean-François, portez-vous bien.
Merci à vous.
Et encore
aussi.
Bravo pour ce livre de cuisine. Ah, demain, Nicole Calfon et Jean-Luc Moreau seront nos invités. Bonjour Philippe Bertrand.
Oui, bonjour Nagui. Bonjour les amis.
Salut.
C'est pas la peine de crier comme ça.
Non, mais enfin,
j'ai attendu 15 jours.
Je suis peut-être bonne pâte, mais ça n'a pas été de la tarte. En fait.
Je te confirme, je te confirme.
Marielle, anémone.
C'est vrai.
Même Dick Rivers. Ouais. Et aujourd'hui,
son anniversaire.
Une pensée à Philippe Carrez qui vient de nous quitter, un ami de Marseille.
Très bien.
Salut les amis.
À demain.
À demain.
Bonne journée.
Salut.
Ciao, ciao.